France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
En juillet dernier, Francesca Albanese, rapporteure spéciale de l'Organisation des Nations Unies pour les territoires palestiniens, publiait un rapport accusant une quarantaine d'entreprises de tirer profit de la guerre à Gaza et de se rendre complices de crimes de guerre. En Russie, les superprofits de l'entreprise Total ont été pointés du doigt après l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Et parallèlement, le réarmement de l'Europe profite à une industrie entière. Alors, la guerre est-elle vraiment bonne pour les affaires, jusqu'où les entreprises peuvent-elles tirer parti d'un climat de guerre jusqu'à devenir dépendantes ou complices? Deux invités pour nous éclairer ce soir. Julien Malizard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste titulaire de la chaire économie de la défense de l'IHEDN, l'Institut des hautes études de la défense nationale. Avec nous et à distance depuis Lyon, Nathalie Bellost, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sciences politiques, professeur associé à l'EM Lyon Business School. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir.
Les entreprises d'armement ont réalisé des profits quasi records en équipant Israël d'armes de pointe pour larguer 85 000 tonnes d'explosifs sur Gaza, soit 6 fois la puissance de la bombe larguée sur Hiroshima. Ces entreprises fournissent des infrastructures qui sont utilisées comme armes de destruction massive. Les machines du géant mondial des équipements de construction rasent Gaza, empêchant le retour et la reconstruction de la vie palestinienne. Les 40 entités citées dans mon rapport, ainsi que leurs sociétés mères et leurs filiales, ne sont que la partie émergée de l'iceberg, illustrant un système qui en implique beaucoup, beaucoup d'autres. Ce que j'ai révélé n'est pas une liste, c'est un système, et il faut s'y attaquer.
La voix de Francesca Albanese, elle s'exprimait le 3 juillet dernier au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et parmi les entreprises pointées, IBM, Microsoft, Caterpillar, Volvo, Hyundai, la rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens a identifié plusieurs entreprises dans plusieurs secteurs clés, comme la surveillance, le militaire, le BTP, les grandes banques, et les accuse de complicité dans l'écrasement, le carnage qui se produit actuellement à Gaza. Nathalie Bellost, comment est-ce que vous analysez ce rapport et ce qu'il pointe ?
En fait, ce rapport, il est une espèce de suite logique, une sorte de suite de mouvements qui s'étaient déjà manifestés il y a vraiment plusieurs années. En 2005, il y a le début de ce qu'on appelle le mouvement Boycott Israël, donc qui ne vient pas d'une organisation telle que l'ONU, mais qui vient de la société civile. Alors, à partir de 2020, la haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies avait déjà présenté une liste des entreprises présentes dans les territoires occupés en violation du droit international dans les colonies israéliennes de Cisjordanie. Elle en avait recensé à l'époque 112. Et donc, ce rapport, il s'inscrit aussi dans cette continuité. Mais dans les mots qu'il utilise, c'est des mots quand même qui sont beaucoup plus forts. On rappelle vraiment les entreprises aux manquements juridiques et aux responsabilités juridiques les plus élémentaires des entreprises qui sont implantées dans ces territoires. Donc c'est un pas de plus, c'est pas quelque chose de nouveau, et donc on s'inscrit dans une continuité.
Qu'est-ce que vous pensez, Nathalie Bellost, tout de même de ce terme, parmi les termes extrêmement forts, vous l'avez dit, hein, qui sont utilisés dans ce rapport, le terme de complicité? Il y a des secteurs, on l'a dit, extrêmement différents qui sont concernés, des situations également, des implantations d'entreprises extrêmement différentes hein, dans ces territoires. Ce terme de complicité, comment est-ce que vous l'abordez vous-même ?
Alors, je ne suis pas juriste, donc la complicité, c'est généralement plutôt un terme juridique. C'est excessivement difficile à montrer, mais en fait, ce qui est un peu expliqué dans le rapport, c'est déjà le fait que par exemple des biens ou des services soient utilisés contre les populations dans les par exemple la destruction de bâtiments. Alors je passe de côté tout ce qui est du domaine militaire. Je pense que Gilles Malizard s'exprimera là-dessus. Mais pour les autres entreprises, voilà, les banques bien entendu, c'est la question de comment en fait, de qu'est-ce qui finance aussi ce conflit. Donc, par exemple, ce qui arrive pour BNP Paribas, on les pointe du doigt pour avoir des bons du Trésor israélien qui contribuent en fait à participer au budget de l'État d'Israël. Donc c'est tout un ensemble d'actions et de d'utilisation de matériel de ces entreprises qui sont pointées du doigt.
Julien Malizard, donc au sujet de l'industrie de l'armement et peut-être à ce sujet l'implication de certaines entreprises françaises dans ce conflit.
Alors, de ce point de vue-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'a priori, la France exporte assez peu d'armes en Israël, voire quasiment pas. En tout cas, de manière des autorisations qui sont accordées par le gouvernement français, sachant que le principe général pour les pays européens, et dont la France, c'est le principe de prohibition. Il est interdit d'exporter sauf autorisation. Donc, en fait, s'il y a une exportation qui a été faite d'un pays européen ou de la France vers Israël, c'est qu'il y a eu, à un moment donné, une évaluation qui a été faite par une instance, en France c'est une instance qui est rattachée au service du Premier ministre, et qui va évaluer les autorisations, les demandes d'autorisation qui sont déposées par les entreprises.
Cela c'est pour les armes stricto sensu, mais on parle parfois de composants technologiques, j'allais dire d'implications militaires au sens plus large.
Alors après, il y a donc ça c'est effectivement pour les armes, ça peut aller très loin. Après il y a ce qu'on appelle les biens à double usage, dont la liste est particulièrement longue et assez rébarbative. Vous pouvez voir le décret qui est particulièrement indigeste.
C'est quoi un bien à double usage ?
C'est un bien qui pourrait être utilisé à la fois à des fins civiles et des biens militaires.
Par exemple ?
C'est souvent des composants, effectivement. Ça peut être des produits chimiques qui peuvent servir après à la fabrication d'explosifs. Alors là, je ne suis pas chimiste, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de la composition, mais c'est assez exhaustif. Et dès qu'un bien rentre dans cette catégorie, là aussi, il y a une autorisation. Donc, après, ce qu'il faut savoir, c'est que les flux qui sont autorisés, ils peuvent ensuite être détournés, c'est-à-dire que des entreprises auxquelles on a, des pays qui achètent ce genre de biens peuvent ensuite après les réexporter. Donc après, il y a tout un travail qui doit être fait de suivi, du retraçage des flux, qui est loin d'être évident parce que après ça suit une forme de commerce et donc c'est assez difficile à retracer. Une fois que on a des mauvais usages de cette nature-là, on l'a pu retrouver des composants, par exemple, en Ukraine, alors même que, utilisés par la Russie sur des missiles dont on a fait du rétro-engineering. Et donc on s'est dit, ah oui, ça ressemble à des composants français. Ça questionne sur, en fait, alors a priori, il y avait une bonne partie qui avait été livrée avant la guerre en 2022. Mais c'est ce genre de flux qu'il faut arriver à retracer pour être certain qu'il n'y ait pas de mauvais usage. Sachant que, une nouvelle fois, j'insiste là-dessus, c'est quand même, à la base, c'est un accord politique qui est accordé aux entreprises pour exporter vers ces pays-là.
Nathalie Bellost, qu'est-ce qui préside à la décision d'une entreprise, quel qu'en soit le secteur d'ailleurs, qui préside à la décision de rester sur un territoire engagé dans un conflit ? Est-ce que c'est une décision purement, strictement économique ou bien c'est aussi une question parfois bien plus large, notamment en matière d'organisation ?
Alors, il n'y a pas de réponse simple à la question, mais je vais essayer de vous évoquer les facteurs qui, généralement, pousse les entreprises à prendre la décision de partir ou de rester. C'est les actifs que vous avez sur place. Quelle est la somme que vous avez investie dans ces différents endroits ? Est-ce que vous êtes là depuis très longtemps ? C'est-à-dire que donc vous avez déjà commercialisé énormément de choses, vous avez déjà une présence. Donc ça, il y a effectivement un impact, j'allais dire, du chiffre d'affaires que vous faites, de ce que ce chiffre d'affaires représente pour le reste de votre entreprise, puis le nombre d'employés. Parce que prendre une décision de partir, s'il n'y avait pas d'employés, ce serait globalement certainement assez simple. Mais comme il y a des employés, certaines entreprises se disent d'accord, mais on met sur le carreau aussi éventuellement des centaines ou des milliers d'emplois. Donc il y a quand même ce questionnement de chiffre d'affaires et puis en même temps ce questionnement de RSE qui peut se poser. Donc ça, c'est ce qui peut être dans la balance. Mais bien entendu, il y a d'autres choses. C'est par exemple, est-ce que on est proche du lieu de conflit ou est-ce qu'on est assez distant? Vous êtes à des milliers de kilomètres, c'est pas pareil que d'être à dans la zone même du conflit où là, vous devez même certainement partir et évacuer. Donc ça, c'est sur le temps long, on peut décider de rester dans un temps, de voir, c'est ce qu'on fait pas mal d'entreprises en Russie au démarrage, même si il y a eu les premières sanctions qui sont tombées. Il y a également, eh bien, est-ce que l'endroit où vous êtes est stratégique pour vos activités? Mmh. Est-ce que c'est stratégique? Est-ce que peut-être les ressources que vous avez dans ces endroits-là vous servent et donc vous en avez besoin? Sinon, c'est votre activité qui est entière qui périclite. Et puis après, il y a des choses, c'est donc des enjeux internes et externes qui se jouent en même temps. C'est-à-dire que le lieu du conflit, être dans une situation de conflit intra-étatique ou inter-étatique, c'est pas du tout la même chose. Donc, ça joue aussi dans la balance. Et puis, dans les causes internes également, est-ce qu'on a une aversion au risque? Est-ce qu'on a déjà eu des précédents? Ça peut largement influencer la décision de partir ou de rester. Et bien entendu, est-ce que le pays est soumis à sanctions ou pas?
Et en quelques mots, Nathalie Bellost, voilà comment Patrick Pouyanné, le président directeur général de Total, avait expliqué le fait que Total reste en Russie en mars 2022. Il avait dit « Je ne suis pas prêt à donner nos actifs pour rien aux Russes, aux oligarques, ce serait contraire aux sanctions. Je ne les donnerai pas gratuitement à Monsieur Poutine, car c'est ce que ça veut dire, partir aujourd'hui, fin de citation. Alors, il a retiré nombre d'activités de Total en Russie. Il en reste quelques-unes, hein, notamment le GNL, le gaz naturel liquéfié. Mais comment est-ce que vous analysez vous-même cette justification?
Oui, alors il est effectivement dans cette position de dire, enfin qui est une réalité, c'est-à-dire que dans les entreprises qui ont choisi de rester, elles sont maintenant soumises à un contrôle qui a été de plus en plus fort, et puis à des pressions pour vendre, j'allais dire, c'est pas au plus offrant, mais justement pour lâcher des infrastructures qui sont aussi des infrastructures stratégiques, notamment le domaine de l'énergie. Donc, le point de vue de sa position peut s'entendre, parce que les sommes colossales qui ont été investies par Total en Russie, peuvent poser question. Néanmoins, Total a plié, même s'il garde, et vous l'avez cité, deux actifs principaux sur place. Mais actuellement, dans les entreprises qui avaient fait le choix de rester, de éventuellement de suspendre les activités, mais de garder des infrastructures, ça devient de plus en plus difficile de quitter le pays. Auchan avait, par exemple, décidé de rester, en argumentant qu'effectivement, au démarrage, l'alimentation n'était pas forcément visée par les sanctions. Mais par contre, la volonté maintenant de Auchan de partir va être mise à mal par notamment ce qui s'appelle l'exit tax, qui peut atteindre jusqu'à 35% du montant de la vente, qui va prendre des mois et des mois, parce qu'il faut l'autorisation d'une commission interne. Voilà. Donc, ces choix sont... les choix que font les entreprises sont effectivement dictés par aussi ces considérations.
Comment est-ce que vous abordez ces questions, Julien Malizard? Dans le fond, on a l'impression que c'est véritablement la variable économique qui préside au choix de ces entreprises de rester ou non sur des territoires. Il n'est jamais affaire de morale quand on parle d'affaires?
Je suis économiste, alors les questions de morale peuvent être...
C'est pour ça que je vous pose la question.
Non, mais je plaisante, parce qu'effectivement... ça reste aussi une science sociale, donc avec une réflexion historiquement, avec des penseurs, des philosophes. Mais en fait, ce qui est intéressant, à mon avis, c'est que en fait, il y a deux choses qui se conjuguent. Il y a une dimension, en gros, qui vient d'être dite, de calcul coût-bénéfice, en fait, sur un temps un peu long. Il y a aussi une question des horizons temporels qui va s'appliquer sur ce calcul coût-bénéfice, c'est-à-dire que à court terme, peut-être que c'était pas vu comme étant au début de la guerre, les conflits étaient pensés, je pense à l'Ukraine, comme étant très bref. Et donc, en fait, les entreprises se sont dit, ah, peut-être qu'il faut pas se retirer maintenant parce que ça serait trop coûteux, parce que ça se trouve dans 3 jours c'est fini. Ça a été le pari d'ailleurs du président Poutine. Donc, et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est dans une guerre d'attrition. Et dans une guerre d'attrition, en fait, la problématique, c'est de pouvoir durer. Donc là, aujourd'hui, la problématique est inversée, peut-être aussi pour le décideur européen qui met en place des sanctions qui pourraient frapper, là aussi, un écosystème d'entreprises européennes. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet, la question de la dynamique temporelle ici par rapport à cette analyse coût-bénéfice, qui est peut-être un peu froide et désincarnée, mais qui, à mon avis, est hyper importante dans ce contexte de guerre d'attrition qu'on a aujourd'hui.
Vous-même, Nathalie Bellost, j'allais dire cette question de morale dans vos travaux quand vous avez travaillé sur Lafarge en Syrie entre 2011 et 2014, quand vous travaillez sur ces entreprises implantées en Russie ou au Proche-Orient, la question morale, est-ce qu'à un moment, elle est intégrée justement à la décision finale ?
Alors, c'est toujours délicat parce que on n'est pas dans le secret des dieux. Néanmoins, dans le cas de l'affaire Lafarge, qui s'est retrouvée à décider de rester en Syrie pendant les 3 premières années de la guerre civile, une des justifications de Lafarge dans son système de défense actuel. Était de dire, oui, certes, c'est vrai, on a beaucoup investi, mais on avait aussi des salariés dont nous étions responsables. Nous étions, et c'est vrai, la seule entité économique qui fonctionnait encore dans le nord de la Syrie, qui était pourvoyeur d'emplois d'une centaine d'employés dans l'usine, et qui font vivre aussi derrière des familles. Alors, est-ce que c'est qu'un système de défense ? Est-ce qu'il y avait du vrai ? La justice décidera quand le procès aura lieu. Mais ces considérations...
Je me permets juste de vous couper. On se dit maintenir de l'emploi, maintenir de l'activité économique jusqu'à travailler même indirectement, même directement avec l'État islamique, avec Daesh ?
Oui, là, on est bien d'accord. C'est-à-dire que c'est au bout d'un moment, l'argument ne tient plus. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a l'argument qui explique pourquoi on commence à rester. Aussi parce que, comme je le disais précédemment, le conflit n'était pas dans le nord de la Syrie au démarrage. Donc, on se dit, bon, on va voir venir. Mais ensuite, la question ne tient effectivement plus par rapport aux choix qui sont faits pour rester à tout prix. Donc Lafarge a non seulement financé et payé en pot de vin Daesh, mais auparavant, avant Daesh, elle avait, pour rester et maintenir ses activités, elle avait aussi arrosé un grand nombre de groupes armés qui étaient effectifs dans la région. Ça allait groupes armés kurdes, bien sûr, à l'armée syrienne libre. Donc, il y avait quand même des effectivement le discours au bout d'un moment est de moins en moins tenable, notamment quand on commence à arriver à des choses qui sont complètement illégales.
On parle là, Julien Malizard, d'entreprises très ciblées, de secteurs relativement circonscrits, quoique d'ailleurs. Il faut peut-être rappeler une chose, c'est que la guerre est tout de même délétère d'une manière générale pour l'économie et pour les entreprises.
Alors, les travaux de la littérature sur ce qu'on appelle l'économie des conflits a beaucoup insisté sur les coûts associés aux conflits. Et globalement, à l'échelle macroéconomique, c'est jamais une bonne affaire. Et ceux qui vous le disent, a priori, c'est probablement pas lié à l'évidence empirique. Il y a notamment une étude qui est très intéressante, basée sur une forme de contrefactuel, c'est-à-dire qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu de conflit. Et l'étude de ces auteurs, qui est assez récente, sur 70-2010, montrait que pour tous les conflits dans le monde, alors après on va mesurer les conflits, il y a toute une problématique, je passe les détails qui ne sont pas très intéressants, mais en gros, qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu ce conflit par rapport à une trajectoire qu'on peut identifier avec ce fameux contrefactuel, s'il n'y en avait pas eu. Et comparé avec l'existant, où il y en a eu. Et globalement, c'est à peu près 10% à 12% du PIB mondial qui a disparu du fait des conflits au niveau international. D'autres études, par exemple des travaux plus anciens, mais sur par exemple la région Pays Basque, qui a subi les attentats terroristes dans les années 70, c'est à peu près, c'est un choc qui est permanent, c'est-à-dire que la région n'a jamais récupéré, après les attentats, leur niveau d'activité économique, c'est des potentiels économiques qui sont définitivement perdus. Mmh. Et là aussi, c'est de l'ordre de 10% du PIB qui a été perdu.
Est-ce que la guerre affecte également celui, le belligérant, qui attaque justement ? Est-ce que la Russie, est-ce que Israël est affecté d'une manière ou d'une autre, d'une manière indirecte, par ce conflit, là aussi d'un point de vue économique ?
Alors, pour Israël, les évidences sont quand même plus difficiles à trouver, mais pour la Russie, c'est quelque chose qui est plus facile à mesurer, parce que le choc économique est beaucoup plus important, mais il se conjugue, en fait, à la fois avec la réorientation productive qui est faite par la Russie pour son industrie d'armement. Ça, c'est un premier aspect, qui peut être vu comme étant quelque chose de plutôt défavorable à l'économie russe, parce que ça va créer de l'inflation, des pénuries dans d'autres secteurs, etc. Ça va souvent dans ce sens-là. Et puis après, il y a aussi un deuxième effet qui est difficile de séparer du premier, qui est l'effet des sanctions. Parce que les sanctions vont aussi affecter l'économie russe. Ça va affecter évidemment ceux qui mettent en place les sanctions, mais ça va être beaucoup plus faible pour ces pays-là. Et en fait, c'est difficile de séparer ce qui relève de la guerre à proprement parler versus de ce qui relève de l'adaptation de la Russie par rapport aux sanctions. Globalement, ce qu'on peut retenir, c'est qu'a priori, l'économie russe, en dehors de l'indicateur de la part de la défense dans le PIB, elle a globalement toutes les caractéristiques d'une économie de guerre, c'est-à-dire une inflation élevée, donc à plus de deux chiffres, et qui perdure aujourd'hui encore. Une population qui est largement appelée sous les drapeaux, qui crée des pénuries, qui va dans le sens de cette inflation, et des problématiques de financement du budget de l'État. La Russie est arrivée quasiment aujourd'hui au terme de ses stocks de réserves. Une grande partie a été gelée, et l'autre partie, en fait, elle a été utilisée pour financer l'effort de guerre. Donc aujourd'hui, elle arrive globalement à une forme d'épuisement qui est assez difficile pour elle à sortir.
J'en reviens un instant, Julien Malizard, à Israël. La croissance pourrait atteindre dans ce pays 3,2% en 2025 sans le FMI. Est-ce que cela signifie que l'économie israélienne est résiliente à la guerre qu'elle mène aujourd'hui à Gaza ?
En fait, le chiffre, à mon avis, est à comparer aussi par rapport aux autres chiffres de pays qui sont à peu près similaires. 3,5 par rapport aux pays développés, c'est relativement élevé. Mais au tout début de la guerre, en fait, il y a eu aussi des indicateurs macroéconomiques qui disaient « Attention, c'est une perte de potentiel, une grande partie de la population est réserviste, et une grande partie a été appelée après les attentats du 7 octobre 2023. » Et donc, en fait, là, on s'est dit « Ah, il y a un risque d'inflation, il y a un risque de potentiel économique, parce que, en fait, le PIB, c'est la mesure de la quantité de travail aussi qui est utilisée en économie, et sauf que là, si les gens ils sont sous les drapeaux, ils produisent pas. » Donc là, il y avait un certain nombre d'indicateurs qui nous disaient « Attention, ça peut être dangereux aussi, délétère pour l'économie israélienne. »
Nathalie Belost, on dit souvent désormais que les entreprises, et notamment les firmes multinationales, sont des acteurs géopolitiques pleins et entiers. Qu'est-ce que cela signifie d'abord, et de quand date la rupture réelle ? On a du mal à imaginer des entreprises implantées dans divers territoires qui ne joueraient pas ce rôle géopolitique.
En fait, c'était au démarrage, on a toujours pensé que les entreprises, elles devaient être neutres. Ça, c'était un postulat très libéraliste. Mais ce qui est rappelé d'ailleurs par Francesca Albanese dans sa rapport de l'ONU, elle dit clairement, les entreprises ne peuvent prétendre à la neutralité. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Soit elle doit faire partie du mécanisme de déplacement de leurs infrastructures, soit participer au démantèlement de leurs activités. Donc, cette question de la responsabilité, elle s'est développée au fur et à mesure aussi des différents scandales qui ont pu avoir lieu. Alors, qu'est-ce que c'est être un acteur politique et géopolitique ? Être un acteur géopolitique, c'est en gros être conscient que par ses actions sur un territoire donné, on peut avoir et on peut contribuer à accroître un conflit. Alors que ce soit parce que on vend des biens et des services à l'un ou l'autre des protagonistes, ou bien parce que on paie éventuellement des taxes dans un pays qui agresseur, on reste et on contribue à financer une économie de guerre, ou bien soit parce que on prend, voilà, on a des interactions avec avec l'un ou l'autre des protagonistes dans le but de d'éventuellement permettre de rester et de continuer son activité. C'est ça être un acteur géopolitique.
Mais on a le sentiment, vous écoutant l'un et l'autre, que ces entreprises au fond sont relativement peu responsables, qu'elles ne savent pas quand partir, comment partir, qu'elles sont dépendantes de décisions qui ne leur reviennent pas, dépendantes des salariés qui peuplent leurs différentes filiales dans les territoires concernés. Vous parlez, Nathalie Bellost, d'une myopie organisationnelle s'agissant de Lafarge en Syrie entre 2011 et 2014. Alors, est-ce que ce sont ces entreprises des acteurs myopes, relativement myopes, ce qui vient à tempérer tout de même la responsabilité dont vous parlez ?
Alors, ce concept de myopie organisationnelle qu'on a pu développer en observant le cas Lafarge, ça veut dire en fait que l'entreprise, elle peut agir sur son environnement extérieur, mais en tout cas, sa responsabilité, c'est effectivement de bien comprendre l'échiquier dans lequel elle est. Donc, sa première responsabilité, c'est le devoir de s'informer correctement et donc d'avoir des gens fiables sur place. Donc cette myope, on devient myope parce que tout d'un coup on enlève, alors parce qu'il le faut, les expatriés qui sont sur place, ça c'est une obligation, mais aussi parce qu'on peut faire confiance à des tiers qu'on ne connaît pas tellement bien et qu'on se renseigne pas sur les gens qui vont prendre localement des décisions. Donc ça, il y a une responsabilité pour moi qui est totalement liée à l'organisation, qui peut pas être liée au conflit. Donc ça, c'est la première chose. Et puis le fait de pas suffisamment essayer de comprendre qui sont vraiment les acteurs. C'est-à-dire que avoir financé les groupes armés dans le nord de la Syrie au démarrage, bon, ce sont des groupes armés. Alors là, de toute façon, c'est une action qui déjà légalement n'est pas responsable. Donc là, il n'y a pas de débat. Mais de ne pas comprendre, de ne pas avoir vu et compris que ISIS n'était pas un groupe armé comme l'Exos et les autres, et qu'il aurait fallu arrêter de toute façon et ne pas commencer ces financements, c'est une autre responsabilité très importante qui fait que quand on ne comprend pas un territoire, il vaut mieux s'abstenir de rester sur son territoire, parce que sinon, voilà ce qui se passe, on finance un groupe terroriste et dont on retrouve les traces malheureusement en 2015 jusqu'à chez nous.
Retour en Europe avec la voix du président de la République Emmanuel Macron. Il s'exprimait en avril 2024 à Bergerac et il parle de poudre à canon.
Ici sont faites les charges. L'usine tourne en permanence, elle a augmenté ses cadences, aménagé son rythme, ce qui fait qu'on a doublé la production. Et on a tous fait le constat que si on voulait aller plus vite, sécuriser, il fallait qu'on maîtrise la totalité du processus. Et donc le choix industriel a été fait de relocaliser les poudres. Elles sont faites aujourd'hui dans le nord de l'Europe, en Suède, et donc on les remet en France parce qu'on va produire plus, parce qu'on veut produire plus vite et parce qu'on veut sécuriser les choses.
Julien Malizard, alors est-ce que cependant la guerre c'est bon pour la réindustrialisation et donc pour ces entreprises implantées en France déjà dans le secteur militaire et industrialo-militaire ?
Et il y a effectivement des perspectives haussières sur le marché de l'armement qui sont assez claires. Elles existent depuis 2014 avec l'invasion de la Crimée, mais il y a eu assez peu d'évolutions industrielles qui ont été faites.
Vous voulez dire qu'il y a une dynamique nouvelle depuis 2014 ?
Il y a une dynamique. Alors, entre 2014 et 2022, les budgets de défense en Europe ont augmenté de 25%. Entre 2022 et 2024, ils ont augmenté de 25%. Donc la dynamique, elle préexistait, mais elle s'est évidemment amplifiée et de plus en plus vite, on va dire, depuis la guerre en Ukraine, enfin la deuxième partie de la guerre en Ukraine, qui est donc l'invasion, la guerre de haute intensité, qui est menée depuis février 2022. Et ça a ouvert un questionnement sur qu'est-ce que l'industrie de défense aujourd'hui par rapport à une période antérieure où on sortait ce qu'on appelait les dividendes de la paix, où on sortait de la guerre froide, et en gros on a adapté un outil industriel à une forme de juste à temps. Alors que pendant la guerre froide, c'était on fait du stock, on anticipe, au cas où il y aurait une guerre de haute intensité. Donc on revient en fait dans cette logique-là. Et le questionnement qui est posé par la guerre en Ukraine, mais qui est aussi concomitant avec des réflexions qui avaient lié après le Covid, en fait, c'est une réflexion sur les dépendances militaires qui peuvent exister dans un certain nombre d'éléments, que ce sont des composants, ou là, dans l'exemple, sur les poudres. En fait, si vous avez des obus, si vous n'avez pas de poudre, ça ne sert strictement à rien. Vous ne pouvez pas, la poudre, c'est la poudre propulsive, c'est ce qui sert à vous envoyer l'obus sur les canons César à jusqu'à une quarantaine de kilomètres de portée. Mais donc, en fait, c'est quelque chose qui est critique, mais jusqu'à 2022, c'était quelque chose qui était pensé comme étant c'est une dépendance, mais c'est pas très grave parce que en fait on n'a pas beaucoup besoin, on l'en exporte pour partie, on en commande pour nous, mais on a des volumes de commandes qui sont somme toute assez limités. Avec la guerre en Ukraine, tout le monde veut de la poudre, et c'est la guerre en Ukraine, et puis c'est aussi un enjeu majeur. C'est aussi pour les armes légères et petits calibres, en particulier aux États-Unis, qui sont des énormes consommateurs de munitions. Et donc là aussi, il faut de la poudre propulsive. Et donc tout le monde veut de la poudre. Et donc en France, aujourd'hui, on s'est dit, il y a un marché qui a des dynamiques, parce qu'il faut servir à la fois l'Ukraine pour soutenir sa guerre d'agression contre la Russie, mais il y a aussi des pays partenaires de la France, la France aussi, qui a besoin de poudre pour équiper ses canons d'artillerie. Et donc aujourd'hui, on a une dynamique de réindustrialisation, alors qui est de réindustrialisation et ou d'augmentation des cadences de production. Le canon César, dont on a beaucoup parlé avec la guerre en Ukraine, avant la guerre en Ukraine, c'était 2 par mois. Aujourd'hui, on est entre 6 et 8. Donc on est sur une augmentation assez substantielle, enfin on fait quasiment x4 sur les cadences de production, ce qui est assez substantiel. Et tous les industriels qui sont en première ligne sur ces questions-là ont fait beaucoup d'investissements pour augmenter les cadences de production, réduire les délais entre le moment de la commande et la livraison. Alors que par le passé, c'était typiquement le genre d'élément qui était absolument pas, c'était marginal dans les débats.
Comme on parle de la guerre, Nathalie Bellost, il faut également parler de la paix. Est-ce que certaines entreprises y voient une opportunité, une fenêtre d'opportunité économique?
Effectivement, c'est même plutôt là où on attend les entreprises. Donc, dans la recherche sur la question de l'entreprise face à la guerre, vous avez deux courants, ceux qui disent de toute façon ça se passera toujours mal, et ceux qui disent au contraire les entreprises ont peuvent apporter au processus de paix. Donc, il y a plusieurs façons éventuellement de contribuer. Par exemple, désinvestir comme un acte de paix. Ne plus investir, ça déjà, c'est une première chose. Il y a aussi des décisions collectives qui peuvent être prises par industrie. Ça s'est déjà vu, par exemple, je pense au processus de Kimberley qui en fait a permis à l'industrie du diamant d'avoir une réflexion collective sur l'économie de guerre qui était financée par ces diamants et de dire on va trouver des solutions pour essayer de faire en sorte que nos diamants soient traçables, etc., etc. Après, il y a également, c'est vrai que les entreprises trouvent leur compte dans le processus du PES. Et d'ailleurs, quand on dit les entreprises, faut être assez méfiant parce que là, on a beaucoup parlé des multinationales, mais celles qui en fait portent les reconstructions, ce sont bien souvent les plus petites entreprises, les petites et moyennes entreprises locales, dont on ne parle pas, mais qui sont le terreau fertile généralement de cette paix économique nécessaire dans les périodes de reconstruction.
Julien Malizard, si du jour au lendemain, et on peut le souhaiter, la guerre en Ukraine cessait, ce serait un problème important pour l'industrie militaire française, justement, qui avait profité tout de même de ce rebond. Je rappelle que l'Europe avait promis de livrer 1 million d'obus à l'Ukraine. Il en est de même du côté des États-Unis, 1 million d'obus à destination de l'Ukraine. Ce serait une perte sèche tout de même.
En fait, il y a deux aspects. Il y a en gros entretenir un effort de guerre, soutenir l'Ukraine en l'espèce pour les Européens dans son effort de guerre. Et ça, c'est un aspect effectivement qui est, en tant qu'économiste, on peut examiner ça comme un choc de demande. C'est-à-dire qu'il y a une demande très très importante, très vite. Et là, de fait, il y a effectivement un certain nombre de choses qui pourraient être une mauvaise nouvelle pour certains industriels. Mais globalement, je pense que le sujet aujourd'hui, on le voit avec les annonces qui ont été faites au sommet de l'OTAN à l'été dernier. En fait, les pays européens sont aussi dans une dynamique, le bloc occidental au sens large est dans une dynamique de réarmement. En moyenne, les pays européens, ils sont à peu près à 2% du PIB dans la défense. L'annonce au sommet de La Haye, ça a été de dire il faut faire 3,5%. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut... c'est pas 3,5%, puis après on revient à 2 ou à moins. C'est 3,5% de manière durable, parce que l'interprétation qui est faite par les dirigeants, c'est le monde est devenu risqué, il y a des tensions géopolitiques, et pour répondre à ces tensions, il nous faut avoir un arsenal militaire qui dissuade, et c'est bien un enjeu de dissuasion ici, un adversaire potentiel de lancer un conflit. Alors, le but du jeu, c'est aussi de s'équiper dans des domaines qui sont divers et variés. Mais globalement, aujourd'hui, on est sur des dynamiques de réarmement qui préexistaient, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et qui sont globalement durables pendant, enfin, au moins jusqu'à l'échéance de la fin de la décennie, si ce n'est au-delà.
Il y a un lieu commun, Julien Malizard, à propos de la guerre, ce serait les guerres des périodes fastueuses en matière d'innovation. Ce seraient des grandes périodes d'invention qui ruisselleraient dans les années après-guerre, justement dans le secteur civil notamment. Est-ce que la guerre d'aujourd'hui a les mêmes vertus que la guerre d'hier dans ce domaine ?
Alors ça, c'est difficile parce que difficile de savoir si la vérité de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, va pouvoir se réappliquer à des expériences plus contemporaines. Ce qu'on constate, c'est que la Seconde Guerre mondiale, en fait, ça a été une concentration de moyens à un moment donné pour, en gros, la survie de la nation. Et ça a été le cas d'un certain nombre de pays européens, aux États-Unis en particulier. Ce qu'on observe, c'est que les technologies qui ont été financées par le Pentagone à ce moment-là, en tout cas, c'est la thèse qui est défendue par Vernon Rutan dans son bouquin de 2006, Is War Necessary for Growth, il dit « Toutes les technologies qui sont au cœur de la croissance des Trente Glorieuses, ce sont les technologies qui ont été financées pendant la Seconde Guerre mondiale. » L'aéronautique, l'informatique, la Silicon Valley est liée pour une grande partie aux contrats d'armement qui ont été faits dans les années 40, le nucléaire civil, la pharmacie, etc. Tout ça, c'est des technologies qui ensuite ont été utilisées par le secteur civil très largement.
Aujourd'hui, on sait ce qu'on doit à la Seconde Guerre mondiale, et aujourd'hui alors ?
Ben, de fait, aujourd'hui, la question, elle est un peu plus compliquée, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les industries de défense sont très particulières, elles ont des barrières à l'entrée très fortes, et maîtriser les technologies qui sont utiles pour les produits militaires, ce sont des technologies qui sont très coûteuses et assez peu... Alors, il y a des formes de dualité, on retrouve ça dans l'aéronautique, par exemple, l'aéronautique civile et l'aéronautique militaire, il y a souvent des proximités dans les firmes, mais ce qu'on constate, c'est que en fait, aujourd'hui, l'innovation, elle est davantage et très largement même faite dans le secteur civil par rapport au secteur militaire.
C'est le cas des drones, par exemple. Le drone, c'est un marché civil à l'origine qui a été réabsorbé en partie par le marché militaire.
Exactement. Et avec l'idée que les drones ont la capacité, parce que c'est très peu coûteux, on pourrait en acheter même dans le commerce, en fait, on peut faire de la masse là où un Rafale, très coûteux, peut faire beaucoup de choses, des choses très, très pointues, mais il peut en faire qu'une seule à la fois. Donc en fait, aujourd'hui, il y a vraiment une réflexion sur cette architecture entre ce qu'on appelle masse et technologie. Quel est le bon niveau dans les forces armées entre avoir des outils très performants en petit nombre et puis avoir des choses peut-être plus rustiques, beaucoup moins coûteuses et qui permettent de démultiplier les forces. Et l'idée, c'est plutôt de les mettre en complémentarité. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que l'écosystème des drones qu'on retrouve en Ukraine, par exemple, c'est un écosystème qui est issu du secteur civil, et qui va ensuite essaimer pour faire des produits militaires. C'est quelque chose qu'on voit aussi en Europe continentale, occidentale, par rapport à l'émergence de nouveaux acteurs qui sont plutôt historiquement situés dans le secteur civil, faire la maintenance d'aéronefs, pour aller voler au-dessus de bâtiments s'il y a eu des catastrophes naturelles. Et en fait, c'est assez facilement, on peut redéployer ça en mettant une charge utile, quelle qu'elle soit, pour des usages militaires.
La guerre est-elle rentable ? Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir éclairés sur cette question manifestement complexe. Julien Malizard, économiste, titulaire de la chaire économie de la défense à l'IHEDN, l'Institut des hautes études de la défense nationale. Et Nathalie Bellos, depuis ICI Lyon, que l'on remercie. Vous êtes docteur en sciences politiques, professeur associé à l'EM Lyon Business School. Merci à vous deux d'être venus ce soir dans Questions du soir.
Merci.